Merci Sophia Anastasio et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Le Secret des Sources, notre plongée hebdomadaire dans les coulisses de l'information.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouver une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
Si l'on pouvait rencontrer l'avenir quelque part, ce serait sûrement dans une école et l'avenir du journalisme, sans doute, se trouve-t-il en partie dans les écoles de journalisme. On y croise en ce moment celles et ceux qui vous informeront encore dans 20, 30 ou 40 ans, sans pourtant que personne, et pas même leur prof, ne puisse dire comment ils le feront. Car qui peut croire qu'il soit possible d'anticiper avec certitude les évolutions du métier de journaliste, d'imaginer la physionomie des rédactions et du système médiatique, de concevoir ce que seront les habitudes de consommation de l'information par les internautes citoyens dans seulement 10 ou 15 ans ? Personne, évidemment. Et pourtant, il faut bien se lancer, innover, essayer, ce qui, dans une matière aussi particulière que le journalisme, induit de ne pas toujours savoir très bien s'il faut coller à une société en mutation rapide pour mieux la décrire ou décrire un monde changeant auquel il faut bien s'adapter. Numérisation, autonomisation, ubérisation, comment former les journalistes de demain à l'information d'après-demain et plutôt que d'école, va-t-on bientôt devoir parler de laboratoire du journalisme. Bienvenue à toutes et à tous et à nos invités dans Le Secret des Sources.
Ce qui est le plus appréciable à l'école journaliste, c'était la diversité des profs finalement. Et je crois qu'il y a une vraie volonté aussi de nous amener devant des interlocuteurs aux profils différents qui n'ont pas forcément tous la même approche du journalisme, parce qu'il n'y a pas une approche journalisme, mais il y en a plusieurs. Et ça, c'est quelque chose que l'école nous apporte et qui nous nourrit.
Dès le premier reportage, on sait ce qu'il faut faire parce qu'on a travaillé dans les conditions exactes, dans des conditions qu'on retrouve finalement dans la vraie vie du journalisme.
La qualité première, c'est la capacité à ouvrir les yeux. Ça paraît simple d'ouvrir les yeux, mais un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va nous surprendre en voyant ce qu'on n'a pas vu, soit parce qu'évidemment on n'est pas allé sur place et que lui est allé sur place, mais un très bon journaliste, c'est quelqu'un qui voit ce qu'on n'aurait pas vu même si nous-mêmes on était allé sur place.
Le secret des sources.
Voilà, rappeler quelques-uns des fondamentaux du journalisme. Corinne Van Meris, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des études à l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille, qu'on présente souvent dans la profession comme étant une des plus prestigieuses. Est-ce que pour autant elle est la même aujourd'hui qu'il y a 10 ou même peut-être 5 ans ?
En même temps, elle est la même qu'à cette époque. Et puis, il y a également énormément de choses qui changent, puisque chaque année, on revoit les enseignements. Et c'est un mélange d'enseignements qui sont reconduits l'année suivante, et puis des innovations, des nouveautés, en fonction de différents éléments.
Vous ne repentez pas d'une page blanche, forcément, tous les ans, mais sur une période de peut-être une décennie, il y a eu une évolution majeure, déjà, des métiers du journalisme et de la formation.
Oui, ce qui est vraiment majeur, c'est les enseignements numériques, en fait, hein, qui ont vraiment bouleversé les enseignements en général. Également, tout ce qui concerne la sensibilisation à l'entrepreneuriat, à la créativité des étudiants, à la responsabilité des étudiants par rapport à ces questions-là.
L'évolution est déjà en marche. Bonjour, Bruno Patino.
Bonjour.
Directeur de l'école de journalisme de Sciences Po et ancien directeur de France Culture. Alors vous n'avez pas peut-être le même recul sur ce genre de questions qu'à l'ESJ, puisque l'école de journalisme de Sciences Po est plus récente. Alors, à vous, je vais poser directement peut-être la question de l'avenir. Quels sont les outils prospectifs dont vous disposez, non pas pour prédire l'avenir, mais pour envisager les médias de demain, pour tenter de répondre à leurs besoins, pour tenter de vous y adapter?
Vous avez bien mentionné le fait que l'école de journalisme de Sciences Po a 10 ans, et pourtant en 10 ans, ses maquettes ont considérablement évolué,
déjà.
Ses programmes aussi ont considérablement évolué, même si elle s'est créée avec une idée très fortement imprégnée du numérique dès le début, puisque l'âge qu'elle a fait qu'elle est un peu concomitante avec la révolution numérique dans les rédactions. Mais malgré ça, le changement est permanent, parce que la démarche qui a été faite depuis le début, c'est effectivement de mettre beaucoup d'accent sur la prospective, non pas pour prédire l'avenir, personne ne peut le prédire, mais pour à la fois essayer de comprendre les vecteurs force et essayer surtout de préparer les étudiants à cet état d'esprit, à savoir des méthodes qui changent, des pratiques qui changent, mais pour un métier dont les fondamentaux restent le même.
Les étudiants changent aussi ?
Les étudiants ont beaucoup changé depuis 10 ans. Ils ont beaucoup changé comme l'ensemble de la société dans ces pratiques. Je pense que nous tous autour de cette table avons vu, les générations les unes après les autres sont très différents. Les étudiants n'échappent pas à la règle. La façon dont ils s'informent eux-mêmes a considérablement évolué. Donc ils comprennent que la façon dont ils vont devoir informer eux-mêmes va évoluer. Et même s'ils essayent de collés à ce qu'ils connaissent pour le temps présent, on essaye de les préparer aux interrogations qui pourraient être les leurs dans les années qui viennent, même après leur sortie de l'école.
Et c'est tout le défi et c'est tout le sujet de cette émission, Corinne Van Meris. Les étudiants, vous les voyez aussi évoluer d'année en année ?
Oui, on les voit évoluer, notamment effectivement dans leurs propres pratiques de consommation de médias, de connaissance des médias français, étrangers, dans leur parcours personnel aussi. On a beaucoup d'étudiants qui ont fait des passages à l'étranger. Par exemple, on a de plus en plus d'étudiants, quand ils arrivent, ils ont déjà une connaissance des médias, ils ont fait des stages. Et voilà, c'était des choses qu'on voyait peut-être moins fréquemment il y a une dizaine d'années.
On verra que les écoles de journalisme ne font pas que s'adapter aux évolutions, elles façonnent peut-être aussi l'avenir également. Avec nous, Amélie Mouget, bonjour.
Bonjour.
Alors vous représentez l'avenir, vous êtes une jeune diplômée du CFJ, le Centre de formation du journalisme à Paris. Vous êtes journaliste à Terra Echo et vous êtes une des 6 dirigeantes, une des 6 fondatrices du site le 4h.com, dont on a déjà parlé dans cette émission, mais qu'on peut sans doute représenter en quelques mots, Amélie.
Oui, alors le 4h.com, c'est un site de reportage grand format, multimédia. Ça signifie qu'on a essayé d'innover à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, on mêle vidéo, photo, son, texte. On utilise tout ce que le web nous permet d'utiliser pour raconter une histoire.
Dans un mélange qui n'est pas toujours le même d'ailleurs, la forme évolue grandement,
oui,
en fonction du
fond. En fait, on se veut un laboratoire d'expérimentation d'informations sur le web, avec quand même, vous parliez des fondamentaux, avec cette idée de, on est des raconteurs d'histoire et on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, tous les outils que le web nous donne, et en fonction de l'histoire qu'on a envie de raconter, on va piocher. Une fois ce sera du dessin, une fois ce sera de la vidéo, une fois ce sera du texte, et le plus souvent c'est un mélange de tout ça.
Ça implique des compétences techniques très larges.
Oui, on travaille avec des rédacteurs, des JRI, des photographes, des dessinateurs. On constitue généralement des binômes, une personne sur le texte, une personne sur le volet multimédia. Et l'idée, c'est de créer un objet journalistique immersif. En fait, l'intention de départ, c'était de prendre le contre-pied de l'information qu'on trouvait en majorité sur le web, une information fragmentée en flux, de laquelle on n'arrivait pas à retenir grand-chose. On avait l'impression d'être passé dans une lessiveuse et on a voulu reposer les choses, prendre le temps, mettre du contexte.
Et vous placez incarner à hauteur d'homme et à hauteur d'humain.
Tout à fait. Le mot-clé, vraiment, c'est incarner. Et c'est pour ça que sur le fond aussi, on avait envie de revenir à des histoires où les personnes sont des personnages, ils sont centraux. Et on regarde des sujets de société à travers leur vie.
Alors vous allez incarner l'avenir dans cette émission, Amélie. Vous êtes diplômée depuis très peu de temps. Hein,
on est tous sortis en 2013 du CFJ.
Et vous vous décrivez sur Twitter, sur votre profil Twitter, comme une aventurière.
Oui, parce que finalement, on est journaliste entrepreneur dans cette histoire.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez en préparant cette émission que vous n'arriviez pas forcément à définir au début de l'aventure ce qu'allait être la ligne éditoriale de votre site, c'est le4h.com, mais que ça s'est fait et que vous avez assumé d'avoir un peu comme ça une improvisation sur cette ligne éditoriale.
Alors, on savait qu'on voulait prendre le temps, on savait qu'on voulait une parenthèse, une bulle, emmener le lecteur dans un endroit de l'information un peu protégé. On savait pas encore exactement ce qu'on allait y raconter. Donc au début, on est parti à l'étranger, on est allé chercher de l'extraordinaire, de l'insolite, très loin. Et puis là, on revient à quelque chose de plus sensible, des histoires un peu plus proches de nous, mais en gagnant en finesse, ouais, je pense.
Vous me disiez en préparant cette émission que vous jouiez au début au grand reporter.
On apprenait en en faisant, en fait. Et je pense que c'est ça. À l'école, on a appris en faisant. Et aujourd'hui, on continue à apprendre beaucoup sur le 4 heures. Mais avec, on a le sentiment d'avoir mûri à l'école d'abord, et puis dans nos rédactions. Et puis de mettre tout ce qu'on a appris à l'extérieur dans ce projet.
Est-ce qu'on est dans le vrai, là, Corinne Van Meris, Bruno Patineau? Est-ce qu'il vous faudra, à l'avenir, former comme ça des journalistes aventuriers comme Amélie?
Moi, quand j'entends Amélie, je retrouve beaucoup les discours qu'on peut entendre chez nos étudiants. C'est-à-dire, il y a une vraie volonté d'aller sur le terrain, une volonté de reportage, une volonté d'aller à l'étranger parfois, de rester en France aussi, bien sûr. Mais voilà, vraiment une volonté d'aller voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et de raconter des histoires. Ça, c'est vraiment très, très net.
Est-ce que l'époque impose une part d'improvisation aussi, Bruno Patineau?
L'époque impose en tout cas aux étudiants d'être maîtres de leur destin. Et en tout cas, c'est ce à quoi les écoles les préparent. Et en particulier, on sait qu'aujourd'hui, certes, si le journalisme change et ses pratiques changent, le monde des médias, c'est-à-dire les employeurs de journalistes, lui, connaît une révolution sans précédent. Et il va être beaucoup plus fragmenté qu'il était auparavant, avec des médias en organisation classique telle qu'on l'a connue, des nouveaux médias qui arrivent, et puis aussi des journalistes qui deviennent, entre guillemets, médias par eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre employeur, et par ailleurs des projets, des médias en réseau, etc. Et donc toutes ces structures possibles, il y en a beaucoup dont on ignore encore l'existence, puisqu'elles vont arriver bientôt dans les années qui viennent, on doit préparer nos étudiants à affronter ça et à affronter ça avec appétence.
Il peut y avoir une ubérisation du journalisme ?
Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une ubérisation, si vous voulez, parce que, en même temps, le journalisme a toujours bénéficié d'une certaine autonomie à l'intérieur des structures qu'il accueillait. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le nombre de types d'organisations dans lesquelles les journalistes vont travailler va être, à mon avis, à un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer au moment où les masses médias dominaient.
Mais avec des rédactions plus petites, plus agiles peut-être.
Avec à la fois des rédactions plus petites, des dispositifs mondiaux, des rédactions énormes, mais en réseau et pas forcément dans un même lieu.
Corinne Van Meris.
Quand vous parlez d'ubérisation, vous faites aussi référence à des questions sociales aussi, de statut des journalistes. Ça, effectivement, ce sont des choses qu'on peut constater, sur lesquelles on travaille aussi. C'est vrai que là, le cas d'Amélie, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a Amélie a un emploi par ailleurs, dans une rédaction, dans un
média.
En fait, on est 6 bénévoles, mais par contre, les personnes qui travaillent pour nous, les journalistes
qui produisent,
les rédacteurs, ils sont salariés. Oui.
Et bon, il y a quelques années, un groupe d'étudiants de l'école a créé le site Lui Président, je ne sais pas si, qui est un blog qui est hébergé par Le Monde. Ces trois jeunes journalistes sont par ailleurs employés au Monde, à France TV Info et à l'AFP. Donc ils continuent
du fact-checking, pour
suivre un petit peu la politique menée par François Hollande, vérifier l'état des promesses, enfin voilà. Ces journalistes ont en même temps leur emploi, qui est un emploi à temps complet, et continuent de travailler sur ce blog.
Bon, chaque école a son émanation, le 4 heures pour le CFJ, à Louis Président pour le SJ de Lille, Bruno Patineau à Sciences Po.
Pareil, nous aussi, nous avons... chaque année, des étudiants qui déposent leur projet d'innovation, qui le font vivre, qui est financé, mais qui aussi travaillent par ailleurs dans des rédactions plus classiques. Ce qui a été dit là est tout à fait juste. On voit bien comment, petit à petit, les plus entreprenants d'entre eux ont une sorte de portefeuille d'activité pour exercer leur métier.
Pour deux raisons d'ailleurs, pour des questions économiques qu'on peut bien comprendre, mais aussi parce que à la sortie d'école, les jeunes journalistes en fait ont besoin de rejoindre des grandes rédactions, parce qu'il y a également un besoin de travailler avec des journalistes chevronnés, un besoin de parfaire ses connaissances, de pratiquer, enfin de mettre les mains dans le moteur. Ils ont besoin de ça aussi en parallèle de créer et d'être novateurs.
On va continuer à parler de ce que nous réserve l'avenir. Nous entendrons également dans cette émission Julie Joly, qui lance l'école W, école rattachée au CFJ, qui se propose de former des entrepreneurs du contenu plus que des journalistes. En attendant, tentons de bien poser notre sujet. On va évoquer le rapport maintenant, un rapport ancien entre le journalisme, profession qui peut, rappelons-le, s'exercer sans diplôme, et les écoles de journalisme. Nous allons faire ça avec Jean-Marie Charron. Bonjour.
Bonjour.
À la fois intervenant régulier dans Le Secret des Sources, sociologue des médias et président de la Conférence nationale des métiers du journalisme, qui regroupe l'ensemble des écoles reconnues par la profession, on définira ça tout à l'heure. Un lien ancien, disais-je, entre journalistes et leurs écoles, mais qui ne va pas de soi, Jean-Marie.
Non, parce qu'en réalité, les premières écoles de journalisme font leur apparition longtemps après la naissance de la profession. Le EJ de Paris est créé en 1899, donc déjà longtemps alors que l'histoire de la presse s'est engagée. Il faut attendre 1924 pour que naisse la seconde, en l'occurrence l'EJ de Lille qui est sur le plateau. À la même époque, un débat s'engage en fait sur le fait de savoir s'il faut des écoles professionnelles ou une formation plutôt à la critique de l'information. Ce sera l'origine, par exemple, de l'Institut français de presse, qui aujourd'hui est rattaché à l'Université Paris 2. En fait, ce n'est que dans la seconde moitié du XXe siècle que va s'imposer l'idée que le journalisme s'enseigne. Les établissements se multiplient. Parmi ceux-ci, on l'a évoqué, on a 14 écoles qui sont reconnues au sens où elles sont reconnues par une commission paritaire de la profession. Mais il y a aussi des formations universitaires qui sont validées uniquement par les instances académiques. Et puis, il y a de très nombreuses écoles privées aux effectifs et niveaux très divers. Il n'en reste pas moins que sur les 35 928 journalistes en exercice aujourd'hui, un quart seulement a suivi une formation en école reconnue et que 60% ont suivi une formation initiale ou continue au journalisme. Jusqu'aux années 80, en fait, les écoles offraient à la fois culture générale et maîtrise des principaux gestes de la profession. Aujourd'hui, la grande majorité des étudiants qui accueillent les écoles sont dotés déjà d'un bagage universitaire et du coup les écoles se concentrent sur l'acquisition des savoir-faire professionnels. Alors face aux défis contemporains, il me semble que les missions des écoles sont doubles. D'une part, comme ça a été dit, je crois, tout à l'heure par Bruno Patino, il y a à permettre aux étudiants de faire face aux attentes de la société, hein, qui s'exprime dans un débat récurrent sur la qualité de l'information. Hein. Il y a peu, nous débattions d'ailleurs sur ce plateau, de la défiance des Français à l'égard des journalistes. D'autre part, les écoles doivent donner les capacités aux futurs journalistes d'accompagner, comme ça a été dit plusieurs fois, les mutations en cours face aux défis et surtout aux chances, aux opportunités qu'apporte le numérique. Alors les écoles de journalisme se doivent de former à des pratiques qui ne font que s'esquisser en réalité. Et c'est dire qu'elles se doivent être des laboratoires où se pratique et se pense l'innovation éditoriale. Ce que nous voyons en fait se dessiner aujourd'hui, je citerai simplement trois registres qui me paraissent significatifs, qui ont déjà été en partie évoqués par vous. Le premier, c'est celui de la recherche et de l'expérimentation éditoriale, qu'il s'agisse de data visualisation, de news game, de web documentaire, de travail avec et sur les réseaux sociaux. Il faut préparer les étudiants, les former à ces nouvelles formes. Et c'est moins évident qu'il n'y paraît dans un milieu qui, jusque-là, était assez étranger à la recherche et à l'expérimentation. Le deuxième registre, c'est celui de la création de médias, qui vient d'être évoqué, et de la capacité des journalistes à maîtriser cette dimension éditoriale. En 2015, j'avais été frappé de voir que plusieurs sites d'information qui ont été créés par des journalistes sortaient tout juste des écoles et qu'ils avaient souvent d'ailleurs été conçus au sein même des écoles. Le troisième registre, dont on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est la nécessité pour les journalistes de travailler avec d'autres professionnels désormais dans les rédactions, des développeurs, des designers, des statisticiens. C'est-à-dire que les formations journalistes doivent se désenclaver, elles doivent échanger avec des écoles d'informatique, d'art, de gestion. Peut-être aussi, il faut que des croisements de cursus aient lieu, que les jeunes professionnels se connaissent et coopèrent dès leur formation. Pour anticiper et analyser ces transformations, les écoles avaient besoin d'une veille. C'est ce qui a conduit à la création de la Conférence nationale des métiers du journalisme. Sa vocation, c'est de traiter les conditions de l'innovation, et notamment avec un fort éclairage international.
La Conférence nationale des métiers du journalisme, dont vous êtes le président, Jean-Marie Charron. Merci. Mmh. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission.
Les étudiants sont mis très régulièrement en conditions réelles telles qu'ils le seraient s'ils étaient dans telle ou telle rédaction.
Le secret des sources, Benoît Bouscarel.
Alors, confronter les journalistes et donc les étudiants en journalisme à d'autres professionnels, à d'autres spécialités, je vous voyais réagir pendant la chronique de Jean-Marie Charon, Corinne Van Meris, Bruno Patino.
Oui, enfin,
c'est essentiel.
Ce qu'a dit Jean-Marie Charon est tout à fait juste. L'interdisciplinarité est absolument essentielle dans l'enseignement en général, mais dans le journalisme plus encore, parce que on voit se développer quelque chose qu'on pourrait appeler le journalisme de projet. En tout cas, l'école de journalisme de Sciences Po, on est persuadé de cela. Un journalisme de projet, c'est une histoire qui est racontée, d'ailleurs, là, l'exemple du 4 heures, je pense, va dans cette direction-là, qui n'est plus racontée par une seule personne, si vous voulez, qui raconte son histoire, mais un ensemble de personnes qui met au point un vrai dispositif, un vrai projet éditorial, et qui regroupe plusieurs métiers, pas seulement des journalistes, mais effectivement des statisticiens, des informaticiens, des développeurs. Et ce qui est très important, c'est non pas qu'on apprenne à nos étudiants journalistes à faire tout ça, même s'ils apprennent des rudiments de code, des rudiments de data visualisation, mais qu'ils apprennent à discuter, à parler et à échanger avec ces autres métiers.
Le fait qu'on veuille maintenant que la forme s'adapte au fond, ça, finalement, c'est une révolution, Bruno Patino.
Non, je pense que la forme et le fond, ça a toujours été très lié dans le journalisme. La façon dont vous racontez l'histoire.
On avait souvent des carcans quand même, des formats. Ben,
c'est-à-dire que oui, vous aviez.
À la radio, à la télévision, maintenant.
Alors,
ça
mettons qu'on avait un catalogue de formats qui est beaucoup plus ample aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois.
Oui, parce que je pense qu'il y a encore des formats et des carcans.
Oui, mais on en invente chaque jour.
Voilà,
finalement.
C'est ça. Mais en fait, c'est ça, je pense, dans ces modules de formation où on travaille beaucoup donc à cette sensibilisation de l'entrepreneuriat, on veut permettre aux étudiants de développer leur créativité. C'est-à-dire, ça va se retrouver soit en créant des médias directement, mais ça va aussi influer leur personnalité quand ils seront au sein d'une rédaction. Il est assez fréquent qu'on propose à des jeunes journalistes au sein d'un média très traditionnel de créer un petit laboratoire avec un tout petit groupe de journalistes, avec des jeunes ou des anciens ou seulement des jeunes, pour proposer des formats. La profession est en attente aussi, a besoin aussi de cette créativité, de ces idées.
Amélie Mouget, pour le 4h.com.
Sur la diversité des formats et le fait qu'on décloisonne un peu, et nous on s'en rend compte à chaque sujet qu'on prépare chaque mois pour le 4 heures, on va réfléchir pour telle information, quelle est la meilleure manière de le dire. Alors, s'il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent, si c'est une scène vivante, ça va être plutôt la vidéo. Si on a besoin de poser les choses, d'expliquer, on va revenir au texte. On apprend à ne plus penser presse écrite, télé, radio, mais à imbriquer tout ça. Et enfin, c'est un vrai défi et c'est assez stimulant intellectuellement de se dire comment je vais pouvoir attraper le lecteur de la meilleure manière avec le panel d'outils à ma disposition.
Et là, vous recrutez, je crois, vous cherchez à recruter quelqu'un qui vient d'une école de commerce.
En fait, on n'est que des journalistes et on a des envies de développement, mais on est un peu pâteaux, quoi. On n'a pas cette formation de commerce, de marketing, et on atteint aussi les limites. On a la créativité, on a le projet, on a l'envie. On pense qu'il y a une attente pour ce type de journalisme, cette info lente, plus réfléchie, mais dès qu'il s'agit de passer sur le marketing, on tâtonne, et oui, on a besoin de s'entourer de compétences multiples.
Là, il y a des oreilles peut-être et des poils qui se hérissent en entendant ça, faire rentrer des communicants et puis des commerciaux, du marketing dans une école de journalisme. La proximité avec le journalisme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, Corinne Van Meris.
Mais ça se fait sous forme de projet. Nous, tous les ans, on organise un Media Lab avec les étudiants. Les étudiants préparent des projets, donc travaillent évidemment beaucoup sur le contenu éditorial parce que c'est leur métier. Et puis ensuite, ils présentent ces projets à d'autres étudiants qui viennent d'autres parcours, d'autres professionnels. Et parmi eux, par exemple, il y a des étudiants en commerce. Après, ils constituent une équipe avec des étudiants, donc des développeurs, des graphistes, des journalistes. Et après, le projet, effectivement, est complet.
Bruno Patino.
Non, moi, ça ne me choque pas du tout, parce que là aussi, à l'école, évidemment, on a notre mécanisme, c'est à la fois de journalisme entrepreneur ou de projet innovation, qui d'ailleurs demande aux étudiants d'avoir, encore une fois, une sensibilité quand même à ce qu'est le devenir économique et organisationnel d'un média. S'ils vont créer leur média, ils doivent savoir ce que c'est qu'un compte de résultats, une structure de coûts, une structure de recettes, la façon dont on rencontre une audience, dont on va dont on va soit la monétiser par la publicité ou la monétiser par le paiement. Ces notions-là doivent rentrer en école de journalisme, c'est absolument nécessaire. Moi, j'ai connu des rédactions il y a très longtemps, parce que je suis hélas beaucoup plus âgé qu'Amélie ici, où finalement les rédactions se préoccupaient peu de la situation économique de leurs médias, parce que ça allait, ça venait. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus former des étudiants sans les sensibiliser très fortement à ce qu'est l'économie de l'information. Alors oui, peut-être que ça peut paraître
avec
choquant.
Avec un risque peut-être d'influer sur les choix éditoriaux, sur la façon dont on traite des sujets, sur des sujets qu'on ne va peut-être pas traiter.
Non, connaître son contexte, ça n'est jamais, jamais une part de risque. Au contraire, c'est donner des atouts aux étudiants et qu'ils connaissent le contexte économique de leur métier et c'est leur donner une part de liberté.
Vous écoutez Le Secret des Sources sur France Culture. Merci d'être avec nous. Le choix musical de notre réalisateur Vincent Abouchard, un extrait du quatrième album de General Electric's Whisper to Me.
En ce moment, Angela Merkel et François Hollande discutent notamment deux sujets, la dette de la Grèce et l'accord de paix. Et l'accord de paix en Ukraine. Sur l'accord de paix en Ukraine, la chancelière allemande a affirmé que...
En fait, moi, je viens de faire un duplex télé. Donc, c'est-à-dire comme un ou une journaliste, de temps en temps, tu as un duplex, tu as une situation à présenter sur place. Donc, tu as un sujet, après tu as 15 minutes à préparer le sujet, et après tu passes devant la caméra pour présenter aux téléspectateurs qu'est-ce qui s'est passé.
Une étudiante de l'ESJ Lille que vous avez reconnue, Corinne Van Meris. Ça, c'était de nos jours, une vidéo qui date de 2015, vidéo interne à l'école. Dans Le Secret des Sources, cette semaine, on essaye d'imaginer comment les écoles de journalisme vont évoluer ou sont déjà en train d'évoluer. Ça, on en fait le constat. Est-ce que ça nous dit de l'avenir du journalisme et des médias? Et une initiative est particulièrement parlante en ce moment, c'est celle de l'école W, lancée en marge du CFJ à Paris, école qui se définit plutôt comme un lieu d'inspiration pour les étudiants. La première promotion de W se lancera en octobre prochain et sa directrice s'appelle Julie Joly.
L'idée de l'école W, c'est d'offrir aux étudiants qui ont passé le bac 3 années pour à la fois cultiver leur ouverture, leur culture générale, apprendre les outils, travailler en mode projet. Et pour faire tout ça, il va falloir qu'ils croisent énormément de gens et de compétences diverses. Donc on a pensé l'école W comme un lieu dans lequel ils allaient pouvoir à la fois exercer, travailler sur des projets en mode collaboratif, mais aussi travailler avec d'autres étudiants, d'autres écoles, des designers, des codeurs, des entrepreneurs, pour qu'ils puissent à la fois eux-mêmes progresser à titre individuel dans leurs compétences, mais aussi apprendre très tôt qu'ils n'auront jamais toutes les compétences et qu'ils devront faire appel à d'autres qu'eux pour avancer. W n'est pas une école de journalisme, W c'est une école pour les producteurs de contenu, donc c'est très large, c'est à la fois pour des gens qui se destinent à être journalistes et qui vont acquérir avec W des compétences plus larges de gestion de projet, technique, mais aussi cultiver la culture générale. Mais c'est aussi pour tous ceux qui veulent travailler le récit, qui auront à transmettre des messages, qui auront à nourrir des sites internet, à imaginer des scénarios, à travailler sur le sens. Voilà, donc c'est effectivement, on n'a pas voulu l'appeler Académie CFJ, École de journalisme, parce que c'est pour nous la préparation idéale au CFJ, mais c'est en réalité la préparation idéale à tous les métiers du contenu. Voilà, donc il y aura des journalistes qui vont enseigner, bien sûr, mais pas seulement. Énormément d'entrepreneurs, énormément de métiers créatifs, connexes, de scénaristes, encore une fois, de personnalités du cinéma. On a vraiment voulu ouvrir au maximum ces étudiants avant qu'ils choisissent un métier. On n'est pas l'école d'un métier, on est l'école de compétences qui sont larges et qui sont communes à beaucoup de métiers aujourd'hui et sans doute encore à beaucoup plus demain.
Donc ça pourra donner aussi des journalistes, mais des journalistes augmentés, comme on parle de réalité augmentée ?
Oui, les journalistes par nature sont déjà obligés de changer tout à fait de métier, mais c'est évident que des journalistes qui se forment à Bac plus 3 en ayant eu pendant 3 années l'occasion de réaliser des projets, de lancer une application de service, de travailler sur une campagne pour une ONG, de chercher à faire de la data pour une ville ou à rendre la ville intelligente, tous c'est les citoyens qui vont s'engager dans des sujets en ayant touché à des choses extrêmement différentes. Donc ils sont augmentés dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils seront en réalité, à mon sens, beaucoup plus polyvalents et beaucoup plus à même de comprendre la complexité du monde qui les attend. Ensuite, techniquement, évidemment, ils vont être initiés au code, à la data, au design, à la vidéo, au son, etc. Donc tous ces outils qui maintenant font partie du quotidien, des rédactions, c'était important pour nous qu'ils n'attendent pas d'être dans une école pour y toucher, mais qu'ils n'y touchent pas non plus seulement à travers le journalisme. On essaye à la fois de les ouvrir à toutes ces compétences, mais aussi à différents types de sujets, de supports, de formats, d'enjeux, pour faire grandir leur culture générale, vraiment au sens large.
Julie Joly, directrice de l'école W, qui recrute en ce moment ses premiers étudiants, sa première promotion. Une réaction de nos invités Corinne Van Meris ou Bruno Patino. Créer comme ça une académie, une extension de vos écoles respectives, c'est une piste pour l'avenir, pour aller peut-être plus loin que le journalisme ?
Nous, on a créé il y a 2 ans une académie ESJ, mais pas dans cette philosophie. On a créé une formation post-bac qui permet aux étudiants à la sortie du bac de se préparer au concours des écoles de journalisme, toutes les écoles.
Oui, ça c'est autre chose. Oui. Bruno Patino.
Oui, je pense qu'on multiplie tous les formations, les spécialisation, enfin j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est évident encore une fois que le parcours dans les écoles n'est plus unique aujourd'hui, parce que ce métier ne se fait plus de façon unique. Alors après, nous on a plutôt tendance à effectivement initier nos étudiants au code, au projet, au design, à la data quand ils sont à l'école, à l'intérieur de leur cycle de formation.
Tout ce qu'on vient d'entendre, et notamment dans la bouche de Julie Joly, résonne avec le concept de rédaction ouverte que vous avez développé, Jean-Marie Charron, notamment dans le rapport sur la presse et le numérique que vous aviez rendu l'an dernier, je crois, en juin, à la ministre de la Culture d'alors, Fleur Pellerin. Il faut dire que l'organisation elle-même des rédactions évolue beaucoup. Des rédactions qui existent déjà.
Oui, tout à fait, parce que en réalité, là, on a plutôt tendance à prendre la question des évolutions à partir des individus que sont les journalistes. Mais c'est vrai que ils vont être amenés à intervenir dans des formes d'organisation de rédaction. Bruno Patino le disait tout à l'heure, d'abord très diverses, et puis en profonde évolution. Alors, parmi les évolutions, moi, il y en a une première qui me frappe, c'est le fait que pratiquement aujourd'hui, presque toutes les rédactions, qu'elles soient en radio, télévision ou en presse écrite et numérique, travaillent 24 heures sur 24, ou tendanciellement vont travailler 24 heures sur 24, parce que elles vont devoir intervenir sur différents supports. Et jadis, c'était chaque support, chaque rédaction travaillait sur un support. Là, c'est très nombreux supports. Ça va être le smartphone, ça va être l'ordinateur, ça va être les tablettes, ça va être leur support traditionnel. C'est-à-dire des contextes différents d'utilisation, des contraintes différentes de technique. Donc une chronologie 24 heures sur 24 est probablement aussi à chaque fois la nécessité de choisir ce qu'est le bon support. Probablement aussi la nécessité d'imaginer ou de concevoir des pôles de spécialisation. Je suis frappé par exemple dans un quotidien comme Le Guardian. On voit que on a un pôle de vidéo qui s'est créé, on a un pôle participatif, on a un pôle de data. Ce sont des équipes souvent d'une bonne dizaine de journalistes qui se sont respécialisés dans ces domaines, alors qu'il y a quelques années, on nous disait finalement, le journalisme numérique, ça va être le journaliste Shiva, celui qui fera tout, avec, vous savez, qui a toutes ses mains, qui devrait lui permettre de tout faire. Et puis, il y a effectivement une autre notion, moi, qui me paraît importante, c'est que de plus en plus, les rédactions doivent travailler en étant ouvertes vers l'extérieur, ouvertes et apprendre à coopérer, travailler avec leur propre public, à la fois un public, je dirais, très large, qui est celui qu'elles trouvent, qu'elles rencontrent sur les réseaux sociaux et qu'elles peuvent associer dans un certain nombre d'opérations, d'enquêtes collectives ou simplement même d'alertes lorsque ces personnes sont témoins de quelque chose. Et puis, il y a aussi toute cette dimension de la coopération avec des personnes du public, mais qui ont des expertises. Et c'est le développement qu'on a vu ces dernières années de toute une série de sites coopératifs ou participatifs. On peut citer par exemple le Huffington Post, mais aussi Le Plus ou Atlantico ou bien d'autres, qui ont défini des profils de journalistes assez inédits, qui consistent à apprendre à travailler avec d'autres, faire accoucher d'autres qui ont une compétence, une expertise, d'un contenu de type journalistique.
Bruno Patineau, vous voulez réagir à ce que vient de dire Jean-Marie Charon?
Voilà, ce que dit Jean-Marie Charon est tout à fait juste et tout à fait important. Je pense que la très grande révolution qui arrive, c'est l'évolution des organisations journalistique. Alors on les appelle rédaction, on les appelle comme on veut. Et c'est encore une fois ce que nous on dit souvent à nos étudiants. On leur dit mais c'est extraordinaire le monde dans lequel vous allez vivre. Vous allez pouvoir être dans des organisations tellement différentes. Ce qu'a dit Jean-Marie Charon est tout à fait juste dans le fait de travailler avec le public, en coopération avec le public, mais aussi travailler entre rédactions. Regardez les grandes histoires qui sont sorties. Snowden, Wikileaks ou les autres. C'est des rédactions qui travaillent ensemble avec des lanceurs d'alerte, eux-mêmes en lien avec la société civile. Et tout ceci forme un projet rédactionnel qui va au-delà d'un seul et même média. Donc préparer nos étudiants à ce monde-là, c'est les préparer à un monde extraordinairement fascinant où on n'est plus forcément totalement, j'allais dire, enchaîné à sa table de rédacteur de son organisation rédactionnelle traditionnelle.
C'est fascinant, mais est-ce que ça fait peur aussi, tiens, Amélie Mouget, peut-être, vous qui êtes l'incarnation de l'avenir dans cette émission, on le disait tout à l'heure.
Je pense que l'innovation, le fait de chercher de nouvelles formes, le fait de créer, le fait de travailler en groupe aussi et d'essayer d'imaginer ce que sera demain, c'est aussi un moyen de rendre le monde du journalisme moins angoissant. Parce que c'est vrai qu'en sortant d'école, ça peut être assez tétanisant. On rentre dans un univers qui est en plein bouleversement. On ne sait pas du tout à quoi il ressemblera dans 5 ans, dans 10 ans. Et on se dit, si on contribuait à créer ce qui sera dans 5 ans, dans 10 ans, d'un coup, on se réapproprie et ça devient... Ça devient grisant, ça devient une opportunité.
Ouais, ça, c'est la bonne façon de prendre les choses. Et tant mieux, il faut la garder absolument. Mais il y a aussi le problème de la précarité. La profession de journaliste est touchée vraiment de plein fouet par la précarité.
Bien sûr. Et il y a la question qu'on s'est posée au début, c'est comment on va faire pour faire tenir notre petit média sur le web où il y a une culture du gratuit qui est omniprésente. Et en même temps, on voulait faire de l'information de qualité. On s'est dit, l'information de qualité, ça se paye. Ça a un coût. En tout cas, nous, on veut payer les gens. Du coup, on a pris le parti de l'abonnement. Il y a quand même quelques exemples qui nous incitent à avoir de l'espoir. Il y a Mediapart qui fonctionne sur abonnement et qui fonctionne. On s'est dit, si on fait de l'information un peu nécessaire et de qualité, petit à petit, les gens vont avoir envie de s'abonner, de nous soutenir aussi. Et on y croit.
Et c'est en train de marcher.
Oui, on est au tout début. Mais
Corinne Van Meris.
Oui, mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est à la fois angoissant pour les jeunes journalistes quand ils arrivent sur le marché du travail, même si on travaille beaucoup à l'insertion professionnelle des étudiants et que globalement nos étudiants travaillent à la sortie de l'école dans les grands médias français ou à l'étranger. Et en même temps, c'est très excitant d'arriver dans cette profession à ce moment-ci où les choses se réorganisent, où les choses bougent, où il y a beaucoup d'intérêt aussi pour la créativité et pour ce que peuvent proposer les jeunes.
Merci à tous d'être venus dans le secret des sources cette semaine. Amélie Mouget, on rappelle l'adresse de votre site, le4heures.com.
Tout à fait.
Avec, à la une en ce moment, une enquête multimédia et à hauteur d'humain, comme on le disait tout à l'heure, sur le quartier de la Coudray à Poissy, dans les Yvelines, où a été tourné le film d'Ipan de Jacques Audiard, signé Clémence Fuléda et Marie Augustin, cette enquête. Abonnement à partir d'1,65€ par mois, je crois.
Tout à fait.
C'est donné.
C'est donné. 19,80€ par an. Et c'est ça qui nous fait vivre.
Le4heures.com. Merci aussi à Corinne Van Meris, directrice des études à l'ESJ de Lille, l'école supérieure de journalisme. Merci à Bruno Patino, directeur de l'école de journalisme de Sciences Po, et à Jean-Marie Charon, qu'on retrouvera dans un prochain numéro du Secret des Sources. Merci aussi à nos amis de France Bleu Haute-Normandie à Rouen, d'où vous nous parliez en duplex aujourd'hui, Jean-Marie. Avant de partir en Turquie dans un instant pour parler de la situation préoccupante de la presse sous Erdogan avec Camille Lafrance, voici le traditionnel clin d'œil de Yacine Bouzard.
En cette période de rigueur budgétaire, d'économie de moyens, ajoutée à cela la mutation du métier de journaliste, nous avons peut-être trouvé une solution pour réduire les coûts de fabrication de votre journal préféré. En l'occurrence, le 12h30 d'Antoine Mercier. Extrait.
Route de l'investiture ouverte pour Hillary Clinton et Donald Trump comme prévu, qui l'emportent donc chacun dans leur camp. Dans le camp démocrate, donc, l'ancienne secrétaire d'État s'impose en Alabama, dans l'Arkansas, en Géorgie, dans le Massachusetts.
À présent, le même journal, mais en version allégée de sa masse patronale, salariale, etc., etc.
Trump et Clinton l'emportent chacun dans leur camp, dans cet État sur un. Dans le camp démocrate, l'ex-secrétaire d'État s'impose en Alabama, dans l'Arkansas, en Géorgie, dans le Massachusetts.
Et dans la perspective de faire toujours plus d'économies, pourquoi ne pas élire un cyberprésident, sans frais de bouche, avec un logiciel programmé et une mémoire vive?
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité, je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée.
C'était le clin d'œil de Yacine Bouzard dans Le Secret des Sources, émission qui continue avec notre séquence consacrée à l'actualité à l'étranger. Bonjour Camille Lafrance.
Bonjour.
Avec nous depuis la Turquie, vous êtes à Istanbul où les milieux progressistes s'inquiètent de plus en plus des attaques contre la liberté de la presse. Au pouvoir depuis 2002, le gouvernement islamo-conservateur de l'AKP et le président Recep Tayyip Erdogan sont pointés du doigt pour les pressions exercées sur les médias. L'opposition accuse le chef de l'État de dérive autoritaire. En 2015, la justice a prononcé 6 interdictions d'émettre et 118 sites internet ainsi que 353 comptes Twitter ont été bloqués. Et hier, un tribunal d'Istanbul a ordonné le placement sous tutelle judiciaire du quotidien Zaman, adversaire du président. Ces journalistes ont manifesté contre cette décision. Quelles peuvent être, Camille, les conséquences de cette interdiction?
Eh bien, ce placement prévoit la nomination de nouveaux administrateurs à la tête du groupe. Plusieurs médias mis sous tutelle auparavant se sont déjà retrouvés en liquidation judiciaire peu après. C'est donc un risque pour le groupe Zaman, réputé proche de l'imam Fethullah Gulen, l'ennemi numéro un d'Erdogan. Il réside aux États-Unis et il est soupçonné d'être derrière la divulgation d'un scandale de corruption, c'était en 2013, qui concernait le chef de l'État et certains de ses proches. Le président l'a même accusé d'avoir créé un État parallèle pour le renverser. Les arrestations se sont multipliés, en tout cas dans ces réseaux, ces dernières années.
Et les journalistes aussi sont parfois directement ciblés. Une affaire a fait grand bruit récemment, Camille, l'arrestation du rédacteur en chef et du chef de bureau d'un quotidien d'opposition. Ils ont été remis en liberté cette semaine après 3 mois de détention provisoire et ils attendent maintenant leur procès.
Oui, alors ces deux responsables du journal Cumhuriyet ont été libérés sur décision de la Cour constitutionnelle. Ils étaient accusés d'espionnage et divulgation de secrets d'État pour avoir diffusé en fait un article et une vidéo attestant de livraison d'armes par des Turcs à des rebelles islamistes en Syrie, une livraison imputée aux services secrets. Le parquet a d'ailleurs requis la prison à vie contre ces deux hommes. Leur procès aura lieu à la fin du mois. Le président a personnellement porté plainte contre eux. Il avait promis qu'ils allaient payer le prix fort et a même assuré n'avoir aucun respect pour la décision de la Cour constitutionnelle. C'est l'une des rares institutions qu'il ne contrôle pas. Et pour lui, il ne s'agit pas ici de liberté d'expression, mais d'espionnage. Récemment, il déclarait d'ailleurs qu'il ne pouvait y avoir de liberté de la presse sans limite. Cela n'existe nulle part dans le monde, croyait-il même savoir.
Depuis son élection à la présidence en 2014, Recep Tayyip Erdogan a aussi multiplié les poursuites pour insultes visant aussi bien les artistes, les journalistes que de simples particuliers. C'est un délit qui est passible de 4 ans de prison. En fait, on s'aperçoit que peu à peu, Erdogan veut sacraliser sa personne.
Oui, alors selon le ministère de la Justice, il y a eu 2000 procédures à peu près qui ont été ouvertes en Turquie pour des insultes contre Recep Tayyip Erdogan. Sont concernées, vous l'avez dit, différentes catégories de personnes, même un footballeur, hein, pour des critiques sur Twitter. La plupart des accusés ont jusqu'à présent écopé de peines de prison avec sursis, mais vous l'avez dit, ils sont passibles de 4 années de prison. Un journaliste renommé du quotidien Milliyet, Kadri Görsel, avait lui été licencié pour ce genre de tweet, c'était en juillet dernier. Et selon l'agence indépendante Planet, ces deux dernières années, près de 200 journalistes ont été interpellés, près de 600 licenciés, une trentaine seraient actuellement toujours incarcérés et certains donc pour avoir simplement émis des critiques sur Twitter.
Ouais, il y a ces pressions contre les journalistes, mais il y a aussi des violences, notamment ces derniers mois, plusieurs journaux ont été attaqués.
Oui, alors il faut rappeler en septembre un groupe de près de 150 partisans du Parti de la Justice et du Développement, c'est l'AKP actuellement majoritaire, avaient jeté des pierres contre le siège du journal Hurriyet à Istanbul pour avoir déformé des propos du président. Quelques mois plus tard, c'est son siège d'Ankara qui était pris pour cible par des hommes armés, des attaques armées également en février, cocktails Molotov et même des balles réelles contre les quotidiens Yeni Safak et Yeni Akit à Istanbul. Il n'a pas eu de victimes mais des dégâts matériels et donc une importante de peur pour certains journalistes. Résultat, aujourd'hui, la Turquie se retrouve 149e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. L'Union européenne avait dénoncé une tendance négative pour l'état de droit en Turquie et de graves reculs de la liberté d'expression depuis 2 ans, après plusieurs années de progrès. C'était dans son rapport annuel en 2015. Mais de nombreuses voix dénoncent ici aujourd'hui encore l'attitude jugée trop conciliante des Européens vis-à-vis de la Turquie, vue comme un rempart contre l'afflux de réfugiés dans leur pays.
Merci Camille Lafrance avec nous depuis Istanbul en Turquie. C'est ainsi que s'achève le Secret des Sources cette semaine, émission préparée par Mathias Mégy, réalisée par Vincent Abouchard. À la technique aujourd'hui, Marie Jaworski et nos confrères de France Bleu Haute-Normandie. Le clin d'œil était signé Yacine Bouzard. La semaine prochaine, vous retrouverez Frédéric Barrère à ce micro, franceculture.fr pour réécouter cette émission autant de fois que vous le voulez. Dans un instant, le journal de Sophia Anastasio et puis réplique d'Alain Finkielkraut. Très bonne journée à toutes et à tous.
On est des raconteurs d'histoire et on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, tous les outils que le web nous donne. Une fois ce sera du dessin, une fois ce sera de la vidéo, une fois ce sera du texte. Et le plus souvent c'est un mélange de tout ça.
La profession est en attente aussi, a besoin aussi de cette créativité, de ces idées.
Travailler avec le public, en coopération avec le public, mais aussi travailler entre rédactions. Regardez les grandes histoires qui sont sorties. Snowden, Wikileaks ou les autres. C'est des rédactions qui travaillent ensemble, avec des lanceurs d'alerte, eux-mêmes en lien avec la société civile. Et tout ceci forme un projet rédactionnel qui va au-delà d'un seul et même média.